RRRNFC, vous écoutez la radio du lycée français au Caire.
Bonjour, nous sommes en direct avec Jacques Plana, qui est rédacteur en chef à France Info, qui est venu en Égypte pour des échanges culturels avec l'Université du Caire.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Ah, pourquoi j'ai choisi ce métier ? Parce que bien j'aimais l'information, très jeune, ben je lisais les journaux, j'écoutais la radio, je regardais la télévision, et ça m'intéressait toujours de savoir ce qui va se passer dans le monde, et savoir que moi-même je peux participer, à être une sorte de médiateur entre l'événement et l'auditeur ou le lecteur, ça m'intéressait, donc voilà, j'ai fait des études pour la circonstance.
Et quelle formation faut-il faire pour être journaliste ?
Alors, l'idéal, on vous dira aujourd'hui, c'est de passer par une école de journalisme. Il y en a un certain nombre en France. Il y a deux grandes écoles reconnues qui étaient l'école de Lille, l'école supérieure de journalisme à Lille, et le centre de formation des journalistes à Paris. Depuis, ce sont des écoles qui existent depuis plus de 60 ans. Et depuis, se sont ouvertes un certain nombre, d'abord, des enseignements universitaires. Il y a eu donc à l'université de Strasbourg, d'abord, je crois, puis à Tours, à Bordeaux, à Marseille, il y a donc des enseignements universitaires de journalisme. La différence énorme qu'il y avait entre ces enseignements universitaires et les deux écoles principales de journalisme, que sont le CFJ et l'ESJ, c'est que la formation des deux écoles était une formation très pratique. C'est-à-dire que quelqu'un qui sortait du CFJ ou de l'ESJ était immédiatement utilisable, que ce soit en radio ou en presse écrite. C'est-à-dire on lui disait « tu vas faire un reportage », il savait ce que voulait dire faire un reportage. Nous, on lui disait « tu vas faire du son », il savait ce que c'était que d'aller faire du son. Et il ne s'agissait plus d'apprendre le métier. Dans les formations universitaires, ça pêchait un petit peu parce que, effectivement, c'était très universitaire, c'était peu pratique. Et le jour où quelqu'un, par exemple, sortait de l'université de Strasbourg, je me souviens, dans les premières années d'existence de cette université, de cette formation en tout cas, eh bien, on avait des journalistes qui arrivaient à la radio en stage, et on leur disait, tu vas faire un reportage, et on leur donnait un magnétophone, et ils regardaient ça, et ils disaient, je sais pas comment ça marche. Et ça, c'est quand même un peu grave, quoi, parce que malheureusement, dans les radios, on n'est pas très nombreux, enfin, ça, la presse écrite non plus, d'ailleurs, hein. Donc, on n'est pas là pour former des gens, on n'a pas le temps, quoi. On a déjà beaucoup de choses à faire dans une journée. Si en plus il faut s'arrêter pour former des gens, c'est un peu compliqué. Et puis imaginons, bon, on va faire, c'est pas en 10 minutes qu'on va expliquer à quelqu'un comment fonctionne le magnétophone avec tous les détails qu'il y a dessus. Et le résultat, c'est que s'il part en reportage et qu'il revient et qu'il n'y a rien sur la bande, eh ben, c'est une journée perdue. Hein. Donc,
c'est embêtant.
Voilà, oui, c'est très embêtant.
Donc avez-vous voyagé dans de nombreux pays ?
Oui, alors j'ai voyagé. Alors je ne vais pas répondre directement à la question. Je vais répondre à la question de ceux qui s'interrogent pour devenir journaliste et qui se disent « Ah, c'est un beau métier parce qu'on voyage beaucoup ». Alors, c'est vrai que moi, je suis le mauvais exemple dans cette affaire parce qu'aujourd'hui, on voyage de moins en moins, malheureusement. Donc, si les gens qui veulent faire ce métier pour voyager beaucoup, je pense qu'il faut chercher autre chose. Hein. C'est vrai qu'on voyage de moins en moins. Pourquoi ? Parce que les communications et les télécommunications sont de plus en plus bonnes avec des techniques maintenant affirmées. Et donc on peut interroger des tas de gens par téléphone sans même se déplacer. Alors, bien évidemment, il y a quelques domaines, par exemple le sport. Le sport, il faut être sur le stade. Hein, on ne peut pas commenter le match à l'autre bout du monde si on n'y est pas et qu'on ne le voit pas. Et ça, dans ce cas-là, effectivement, un journal comme L'Équipe, en France, par rapport à d'autres journaux comme Le Monde, Le Figaro, La Croix, etc., un journal comme L'Équipe, c'est celui qui a en permanence le plus d'envoyés spéciaux, c'est-à-dire de journalistes en voyage. Parce qu'il faut qu'il y en ait sur tous les terrains de football le jour où il y a une journée de championnat, il faut qu'il y en ait sur tous les cours de tennis, il faut qu'il y en ait au championnat du monde d'athlétisme, aux Jeux Olympiques. Je ne vous dis même pas combien il y a de journalistes de L'Équipe, c'est un bataillon. Dans des cas comme ça, c'est très important. Pour d'autres journaux, si vous voulez, bon, moi j'ai fait beaucoup dans la diplomatie dans ma carrière. C'est vrai que les journalistes qui s'occupent de diplomatie, il y en a beaucoup qui sont par exemple à Paris et qui font par téléphone, ou qui rencontrent les ministres étrangers quand ils sont de passage à Paris, qui rencontrent des spécialistes parce que il y a un tas d'instituts de recherche divers et variés qui traitent les uns de l'Asie, les autres du Proche-Orient, les autres de l'Amérique latine, etc. Et que donc on a des gens qui travaillent là-dessus tout le temps et qu'on peut les interviewer sans même se déplacer à l'autre bout du monde. Alors c'est vrai que moi, parce que j'ai fait un certain nombre de guerres, notamment, j'ai travaillé pendant 10 ans en Afrique et ensuite pendant 15 ans au Proche-Orient. Ce qui fait que là, bon, j'allais sur place, effectivement, j'ai fait une 20 ou 25 pays d'Afrique, et j'ai fait pratiquement tous les pays du Proche-Orient, enfin de la région du monde arabe. Je crois qu'il y a que le Yémen, je crois, où je ne suis pas allé.
Et en quoi consiste votre métier de rédacteur en chef ?
Alors, je vous disais que j'ai fait un certain nombre de séjours à l'étranger, et il y a quelques années, donc, j'ai passé 6 ans et demi installé au Caire pour couvrir l'ensemble du monde arabe. Et puis en rentrant de ce séjour dans le monde arabe, eh bien, je voulais changer un petit peu parce que j'avais fait quand même une vingtaine d'années de ma vie dans le monde arabe. Et j'ai décidé de faire, de m'occuper du sport à France Info. Donc depuis ce temps-là, je m'occupe de sport. Donc je suis rédacteur en chef d'une équipe de journalistes sportifs pour gérer la couverture de tout ce qui se passe dans le sport en France et dans le monde. Mais bon, ça n'est pas mon métier principal. Enfin, en tout cas, sur l'ensemble de ma carrière, ça va faire une petite partie, puisque vraisemblablement, d'ici un an, je ferai autre chose. C'est-à-dire, en gros, après les Jeux de Pékin, pour être clair. Et auparavant, moi, j'ai été rédacteur en chef, notamment, je suis rentré à France Info au moment où on a créé France Info comme rédacteur en chef. Là, il s'agissait de on pourrait dire, gérer l'antenne, c'est-à-dire surveiller tout ce qui se passe dans le monde avec d'abord l'écran d'ordinateur que nous avons devant nous et qui défile les dépêches des différentes agences. C'est-à-dire nous sommes abonnés à des agences, parce qu'on paye, hein. Donc l'agence France Presse, mais aussi Reuters, qui est une agence britannique, et Associated Press, une agence américaine. Donc les dépêches défilent, les informations, et donc le rédacteur en chef, déjà, il doit surveiller le tout. Et puis, en fonction de ce qui se passe, appeler tel ou tel correspondant ou envoyer un reporter à tel endroit pour couvrir l'événement. Ça, c'est une chose. Ensuite, on réceptionne, on fait refaire si ça nous plaît pas. Hein. Une fois que, donc en radio, une fois qu'on réceptionne le reportage, il faut faire ce qu'on appelle un lancement. Le lancement, c'est ce qui va être donné par le garçon qui est dans le studio, ou la fille, qui est dans le studio pour lancer donc ce reportage. Et ensuite, on fait défiler. Ensuite, le rôle aussi du rédacteur en chef, c'est de répartir dans la grille tout au long de la journée l'ensemble des informations de telle manière que si on l'écoute à n'importe quel moment, on ait toujours l'essentiel de l'actualité. Voilà, en gros, la responsabilité du rédacteur en chef. Et ça, donc, avec un système où je commençais à 3h du matin et je finissais à 13h. Et puis, entre-temps, il y en avait un autre qui arrivait, qui me remplaçait. Et puis, au moment où je partais, il y en avait un autre qui arrivait, qui était avec celui qui était avec moi et qui allait, lui, durer de telle manière que 24 heures sur 24, il y ait un rédacteur en chef qui ait les manettes.
Comment avez-vous découvert ce métier ?
Comment j'ai découvert ce métier ? Parce que chez moi, il y avait la radio et la télévision, mes parents lisaient les journaux et que donc, voilà, ça m'a intéressé jeune et que j'ai beaucoup regardé des choses qui se passaient à travers le monde. Bon, moi, je suis beaucoup plus âgé que vous. Hein. Et donc, j'avais un peu la chance de vivre dans ma jeunesse en Algérie, où il se passait beaucoup d'événements, puisqu'il y avait la guerre d'Algérie. Donc, j'ai suivi de très près la guerre d'Algérie. Quand vous lisez dans vos livres d'histoire que le général de Gaulle, au siège du gouvernement général à Alger, a dit à tous les gens qui étaient devant lui « Je vous ai compris », eh bien, moi, j'étais en bas. Et j'ai vu le général de Gaulle, j'étais tout petit, mais j'ai vu le général de Gaulle qui disait « je vous ai compris ». Et j'ai demandé à mon papa « qu'est-ce que ça veut dire ?» Parce que « je vous ai compris », c'est beau, mais ça veut rien dire. Hein. Bon. Et d'ailleurs, c'est très simple, il y a des gens qui l'ont compris dans un sens, il y a des gens qui l'ont compris dans un tout autre sens, et ensuite, eh bien, il y en a qui ont été très déçus parce qu'ils n'avaient pas compris comme ça. Vous voyez, moi j'ai vécu ça, j'ai vécu les putsch des généraux à Alger, j'ai vécu donc là. Réforme de la Constitution, l'arrivée de la Constitution de la Ve République sous laquelle vous vivez actuellement.
Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence entre radio et journaux ?
Non, alors les choses sont, il faut que les choses soient claires. On fait le même métier, on est tous journalistes, mais on ne fait pas le même métier quand même. Bien entendu, si vous regardez, si vous écoutez un journal radio, ça fait à peu près ce qu'on appelle un journal, nous, dans notre jargon. Ça fait en gros une quinzaine de minutes. C'est ce que vous entendez à 7h du matin, à 8h du matin sur les chaînes de radio. Ça fait une quinzaine de minutes. On traite une quinzaine de sujets à peu près, certains développés, d'autres en bref. Si vous mettez ça sur papier et que vous comparez avec un journal comme Le Monde fait chaque jour, en gros, 34 pages. Et notre journal radio écrit fait à peu près un quart de page du Monde. C'est-à-dire que si vous calculez bien, 4 fois 34, ça doit faire 136, 3, 12, 13, oui, c'est ça. Donc, en gros, dans le monde, vous avez 136 fois plus de textes que ce qu'on fait, nous, dans un journal radio. Il est évident que, rien qu'avec ça, vous comprenez très bien qu'on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire que le journal Le Monde, lui, peut développer des informations, développer des reportages, tout ce qu'on ne peut pas, nous, développer dans un journal. La différence qu'il y a, c'est que nous, nous avons en gros un journal toutes les heures, alors que Le Monde, il n'en sort qu'un par jour. Hein, donc évidemment, sur la journée, c'est vrai qu'on en fait un certain nombre. Mais en quelque sorte, nous, nous vous donnons la base de l'information, et si vous en voulez plus, eh bien, reportez-vous à votre journal habituel. Donc, c'est un peu ça, quoi. À la télévision, c'est encore un peu différent, parce que ils vous donnent surtout des images. Heureusement, maintenant, ce sont le plus souvent des bonnes images. Ce que je veux dire, c'est la vraie actualité, hein, parce que je regardais encore la télévision égyptienne ce matin. Je voyais marqué images d'archives.
Oui, propagande, ça, oui, ouais, naturellement.
Non, ce n'est pas de propagande, c'est des archives. C'est-à-dire, ce n'est pas des images qui représentent l'événement dont on vous parle. Parce que, sachez bien que pour faire de la télévision, bah, il faut de l'image. Or, oui, sinon vous voyez le présentateur, et en gros, c'est de la radio filmée. Donc, si on vous montre le présentateur qui vous lit les informations, c'est de la radio filmée. Ce n'est pas de la télévision. La télévision, c'est des images. Donc, si on vous parle d'un événement qui se passe à l'autre bout du monde, qu'on vous dit qu'il y a eu un tsunami en Indonésie, les images, elles ne sont pas forcément arrivées. Donc, pour ne pas qu'on vous montre le journaliste, on va vous passer des images d'Indonésie, mais qui ne sont pas les images du tsunami. C'est des images d'archives qu'on avait là déjà dans les tiroirs, qu'on a ressorties, et on vous dit, voilà, en Indonésie, alors bon, et vous voyez des plages, mais là, il n'y a pas de tsunami, parce qu'il n'est pas encore arrivé, si j'ose dire. Bon, c'est un peu, bon, malheureux, mais il faut bien savoir que pour avoir les images immédiatement, ça coûte très cher, parce que s'il faut ce qu'on appelle des faisceaux qui montent vers les satellites et qui redescendent de l'autre côté. Et donc, ça, il faut payer, quoi. Et puis, si on veut vraiment des images d'actualité, on peut en avoir, hein, parce qu'aujourd'hui, le monde est fait de telle manière qu'il y a ce qu'on appelle des échanges d'images qui font que, trois fois par jour, chaque pays qui a quelque chose d'intéressant, enfin, qui s'est passé chez lui, qu'ils ont filmé, mettent ça sur une espèce de banque de données internationale, comme vous savez, maintenant, on fait sur Internet, vous pouvez récupérer des choses. Eh bien, c'est ça. Donc, c'est proposé à toutes les télévisions du monde. Chacun prend ce qu'il veut et puis paye en fonction de ce qu'il a pris. Donc, voilà. Donc, ça arrive trois fois par jour. Une fois dans la nuit, qui permet de faire les journaux du matin. Une fois dans la matinée, qui permet de faire les journaux de la mi-journée. Et une fois dans l'après-midi, pour les journaux du soir. Ça existe. Mais ça coûte très cher. C'est pour ça que, même chez nous, hein, pendant longtemps, avec des moyens bien supérieurs à peut-être ce qu'il y a ici, on passait aussi beaucoup d'images d'archives. Hein. On vous parlait de beaucoup de choses et vous voyez marqué en bas « images d'archives ». Donc, c'était pas l'événement dont on vous parlait. C'était le pays, certes. C'était éventuellement la personne dont on vous parlait. Mais ce n'était pas dans les vraies circonstances d'aujourd'hui.
Quel événement vous a le plus marqué lors de vos reportages ?
Oula, c'est bien difficile ça, parce que moi j'ai fait, comme je vous l'ai expliqué, j'ai eu la chance de faire à la fois de la politique, des guerres, du sport, donc il y a des choses très très différentes. C'est vrai que bon, quand vous êtes sur un terrain des opérations de guerre, ça marque. Parce que vous avez, bon, déjà, on a peur, hein.
Sans gilet pare-balles, casque, c'est sûr que c'est...
Oui, alors, c'est vrai qu'en principe, nous avons un gilet pare-balles et un casque. Mais les gilets pare-balles que nous avions il y a quelques années faisaient en gros 25 kilos. Et quand vous êtes, quand vous êtes à Ramallah, en face des chars israéliens qui sont en train d'enterrer la Mokata avec votre gilet pare-balles de 25 kilos...
C'est si en sécurité que ça, c'est vrai.
Voilà, gilet pare-balles de 25 kilos, le casque qui fait aussi quelques kilos, plus le magnétophone qui en fait une bonne dizaine. Imaginez qu'il se passe quelque chose, pour partir en courant, c'est un peu compliqué. Ou alors, il faut vraiment être un super athlète. Donc, ça, c'est impressionnant. Et bon, pour tout vous dire, je n'ai jamais porté. Hein. Ni les casques, ni les gilets pare-balles, où je les ai portés 10 minutes. Mais en gros, soit on les laissait dans la voiture, soit on les laissait à l'hôtel. Mais bon, maintenant, heureusement, on en fait en carbone, notamment. Donc, le carbone, c'est très fin. C'est aussi efficace que les gros qu'on avait autrefois. Mais bon, ça coûte très cher, donc ça dépend pour qui vous travaillez, mais il y en a qui n'ont pas les moyens de s'acheter ça. Mais voilà, ça c'est impressionnant, mais bon, j'ai fait d'autres choses. Vous voyez, dans le sport, par exemple, je me souviens de comment s'appelle-t-il, Bruno Perron a tenté le premier tour du monde en 80 jours. Sur le roman de Jules Verne, on avait mis la barre à tour du monde en 80 jours. Or, le record à l'époque, pour faire le tour du monde était quand même de 128 jours. Donc ça fait quand même une idée complètement folle, quoi, hein, de se dire qu'on va passer d'un record de 128 jours à 80 jours, c'est pratiquement invraisemblable. Et bon, ce brave Bruno Perron, qui est un garçon qu'on connaît bien à Radio France, en plus n'avait pas les sous pour le faire, donc il est venu nous voir et nous dit bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Bon, on a réussi à lui trouver quelques sous et l'accompagner dans sa préparation et tout ça. Bon, il est parti et on l'a suivi pendant en fait 79 jours et 16 heures parce qu'il a réussi à le faire contre toute attente, hein, parce que même lui, bon, dans le micro il nous disait pas ça parce qu'il pouvait pas le dire, mais il était persuadé qu'il n'y arriverait pas. Il était parti dans l'idée, bon, si je fais 90 jours déjà, c'est génial, quoi. Et bon, ben ça a été pour nous aussi une expérience, parce que pendant les 79 jours et 16 heures, on l'a suivi minute par minute, quoi, jour et nuit, on pouvait se parler, parce que maintenant avec les satellites, on peut se parler, et il nous racontait bon, ses angoisses et tout ça, c'est aussi fabuleux. Bon, malheureusement, j'étais pas sur le bateau, mais j'aurais bien voulu y être. Il avait quand même un bateau qui faisait 32 mètres et quelques, et dans le Grand Sud, là, de temps en temps, il nous disait que le bateau, il arrivait en haut d'une vague, et il plongeait, et en gros, la vague, elle faisait la longueur du bateau, quoi. Donc le bateau, il plongeait, on savait même pas comment on arrivait en bas, quoi. Et bon, quand vous imaginez ça, et quand vous parlez, quand il vous raconte ça à la radio, vous dites, bon, on a expédié ces 15 gars, ils étaient 6, ces 6 garçons sur la mer, et on les reverra peut-être plus, en plus, on est responsable, quoi, parce qu'on les a bien aidés, quoi. On leur a dit, oui, il faut y aller, et on va faire ça tout ça ensemble, mais nous, on est à terre, et eux, ils sont quand même au milieu. Bon, toutes ces choses-là, ça marque, c'est intéressant, et puis, bon, c'est varié.
Bon, merci d'avoir répondu à nos questions, c'était sympa. Donc, au revoir, continuez bien votre séjour au Caire.
Merci.